On va prier et continuer dans la première lettre de Pierre. Seigneur, on te remercie parce que tu nous parles aujourd'hui encore, Seigneur. Et ta parole est la vérité. Seigneur, nous savons que l'ennemi, le diable, a toujours voulu mettre en cause, mettre en doute la vérité de ta parole, Seigneur. Il a commencé comme ça dans la Genèse. Lorsqu'il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez pas toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Et Seigneur, depuis, il continue de le faire. Nous sommes entourés par un monde qui rejette les valeurs de la Bible, Seigneur, de plus en plus. Et nous te demandons de veiller sur ton Église pour qu'elle tienne ferme ces vérités. Qu'elle ne les abandonne pas, elle aussi, sous prétexte de modernité, de désir de ne pas vouloir être rétrograde. Seigneur, il n'est pas question d'être obscurantiste, Seigneur, il est question de voir ce que tu nous dis dans ta parole et d'obéir à cette parole, Seigneur. Merci parce qu'elle est disponible encore aujourd'hui. Nous l'avons en nos mains, entre nos mains. Seigneur, donne-nous de la connaître, mais surtout plus encore de l'appliquer, d'y obéir, Seigneur. C'est notre prière dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. On a vu la semaine dernière, et je vous invite à consulter le site en ligne des messages. Si vous avez des questions où ça se trouve, vous tapez sur Google calvarychapelle.fr et vous serez conduit à différentes calvaries, Calvary Nice, et vous pourrez trouver les messages que vous aurez peut-être ratés ou que vous voulez réentendre. On est dans l'épître de Pierre, ça veut dire simplement la lettre que Pierre a écrite à des chrétiens qui commençaient à connaître la persécution. Et dans vos Bibles, si vous avez une Bible à la colombe, les Bibles qu'on vous a passées, ça se passe à la page 264, à la fin de la Bible. Et je vous invite à regarder le texte. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je peux dire, c'est ce que Dieu nous dit à travers sa parole, inspirée par l'Esprit-Saint. Nous avons vu que le thème de l'épître, c'est comment vivre l'espérance du salut qui est la nôtre. Nous savons qu'il y a une vie après cette vie ici-bas et que c'est une vie merveilleuse et que si Dieu nous garde après nous avoir sauvés ici-bas, c'est parce qu'il veut que nous soyons des témoins de son amour. Il veut que nous puissions tressaillir d'une allégresse indicible et glorieuse. Et j'ai envie de vous demander, c'est quand la dernière fois que vous avez tressailli d'une allégresse indicible et glorieuse? Alors c'est bien, peut-être vous me direz, moi je le vis intérieurement, mais pas extérieurement. Et il nous explique un peu le secret de cette allégresse, de cette joie, cette paix profonde. Et en fait, elle passe par quelque chose qui nous qui vivons au XXIe siècle, va nous paraître anachronique et fausse. C'est de vivre dans un esprit de soumission. Un esprit de soumission à Dieu qui se manifeste par un esprit de soumission aux institutions, au gouvernement. Un esprit de soumission vis-à-vis de nos employeurs. Un esprit de soumission mutuelle dans le mariage, un esprit pour les enfants de soumission à leurs parents, et ça paraît vraiment anachronique, et pourtant, c'est ce qui est dans la parole. Et là aussi, l'ennemi nous dit, Dieu a-t-il vraiment dit « Femme, soyez soumise à votre mari, mari, soyez soumise à votre femme » C'est dépassé tout ça. Et de la même façon qu'il a causé beaucoup de problèmes à l'humanité en instillant le doute dans nos esprits, de même aujourd'hui, il crée le doute dans nos esprits. Et notamment, dans le domaine, on a parlé du domaine du gouvernement, je vous invite à aller voter en votre âme et conscience aujourd'hui, si vous avez une carte d'électeur en votre possession. Sinon, je ne vous laisserai pas la possibilité de rouspéter, de parler politique. C'est le moment ou jamais de faire quelque chose, de faire savoir vos souhaits en matière de gouvernement. Alors certes, c'est les élections régionales, mais ça compte et c'est aussi vu par les états-majors politiques comme des décisions à grande échelle. Et là, je vous dis de voter en votre âme et conscience. Et je vous dirais même de prier avant de savoir pour qui vous allez mettre un bulletin dans l'urne. Parce que c'est jamais tout noir et tout blanc, quoi qu'en disent les caricatures politiques. Il y a des choses pour tel candidat qui me paraissent ce que je veux exactement, mais par contre il y a des aspects qui ne sont pas bons chez ce candidat et qui vont me plaire plus chez l'autre. Et ce qu'on veut éviter de faire, c'est de voter par réflexe idéologique. On voit où les idéologies nous conduisent. Il faut voir ce que les candidats proposent et encourager les candidats à proposer des choses. Je referme cette petite parenthèse politique. Allez voter si vous avez une carte d'électeur aujourd'hui. On va être soumis à nos gouvernements. Donc il faut vraiment prier pour savoir qui on met en place. On va être soumis à nos employeurs, on doit être soumis à nos employeurs, mais surtout dans le mariage. Le mariage, nous l'avons vu il y a quelques mois, on a complètement rejeté les valeurs judéo-chrétiennes qui fondaient le mariage dans notre pays, dans de plus en plus de pays, sous prétexte d'émancipation, sous prétexte de libération, sous prétexte de anti-obscurantiste, anti-machisme. Mais encore une fois, c'est pas ce que disent les hommes qui compte, c'est ce que dit Dieu. Et est-ce que vous croyez qu'il vous dit la vérité dans ces domaines ou pas? Faites attention, parce que s'il ne vous dit pas la vérité dans ces domaines, il y a de grandes chances pour qu'ils ne vous disent pas la vérité dans le domaine du salut et que peut-être on vous fait croire qu'il y a un salut si vous mettez votre foi en Christ, mais peut-être que ce n'est pas vrai après tout. Donc c'est un point important de voir ce que la Bible nous dit au sujet du mariage. Le mariage, c'est une belle chose et c'est Dieu qui l'a institué. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui créer quelqu'un qui sera là pour l'aider. Et il n'a pas pris un morceau du tarse, c'est la cheville, pour la créer. Il n'a pas pris un morceau de son cerveau pour la créer. Il a pris un morceau de sa côte, pour qu'elle reste côte à côte. Il y a un beau principe d'égalité, de droit, on va le revoir dans le passage d'aujourd'hui. Et c'est Dieu qui a pensé à ces choses. C'est Dieu qui est l'inventeur du sexe. Il aurait pu faire, j'aime bien dire ça, qu'on se reproduise par bouturage. On prend un sécateur, on coupe son petit doigt, on le plante dans la terre et il y a quelqu'un qui vient agrandir. Et je crois qu'il l'a fait parce que ça nous donne un avant-goût de ce que c'est qu'une union profonde, une union telle que Dieu veut l'avoir avec nous. Dieu parle même de l'Église comme de son épouse. Jésus va venir chercher son épouse. Et bien sûr, Satan encore cherche à polluer, Satan cherche à détourner les choses voulues par Dieu. Mais il a créé un cadre dans lequel ces relations doivent s'exercer, les relations sexuelles, c'est le cadre du mariage. Là aussi, c'est vieux jeu. On est libéré, on a la pilule, on a plein de pilules maintenant. Non, il faut... On voit où en est notre société, on voit où en sont nos contemporains dans leurs relations. Et le plus triste, c'est pas qu'on soit libre, le plus triste, c'est qu'on soit si malheureux avec cette liberté apparemment gagnée contre les obscurantistes du Moyen-Âge qui croient que la parole de Dieu est la vérité. On va lire le passage en entier, on a commencé à en parler. On a expliqué qu'en fait, il y avait toujours cet aspect de témoignage envers l'autre par la soumission, que les femmes à l'époque c'était plus difficile pour une femme de se convertir et d'essayer d'amener son mari à la foi qu'il ne l'était pour le mari d'amener sa femme à la foi, parce que culturellement à l'époque, le mari avait tous les droits. Si sa femme le trompait, il avait le droit de la tuer, mais si lui commettait l'adultère, elle avait le droit de ne rien faire. Donc il y avait une société machiste, mais encore une fois, l'Évangile est arrivé, et c'est lui qui a libéré et élevé le statut de la femme. On va lire à partir du verset 1 dans le chapitre 3, page 264 dans la Bible à la Colombe. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Telle Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ça, c'était les instructions pour la femme, et maintenant pour le mari. Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 6 versets pour la femme, 1 verset pour les maris. C'est pas que les maris soient plus intelligents et aient besoin de moins d'explications, mais c'est encore une fois parce que c'était une situation difficile pour une femme d'amener son mari, et on sait que par ailleurs dans la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, on va s'y tourner, on va la lire aussi. Éphésiens 5, c'est page 222 dans la Bible à la Colombe. Un passage un peu plus long. Et là, c'est l'inverse. Il donne plus d'instructions aux maris qu'aux femmes. Donc, Dieu est équitable. Il ne pense pas que l'un a plus besoin d'explications. C'est en fonction du contexte. On va lire à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église, à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme aime son mari. Il continue avec des instructions pour les enfants, pour les employeurs. Et toujours cette idée de soumission qui, en fait, a à sa base l'idée de soumission à Dieu. Le rebelle, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, c'est quelqu'un qui, en fait, est rebelle à l'autorité de Dieu. C'est quelqu'un qui se rebelle contre Dieu. Vous de même, Marie, revenons au juste encore une fois, pour la soumission de la femme à son mari, juste pour revenir très brièvement, la soumission, c'est une obligation. Dieu leur donne parce qu'il sait que c'est la meilleure chose possible, la bonne chose à faire dans le cadre d'un mariage. C'est l'obligation d'être soumise à son mari. Ça veut, il y a toujours une limite à la soumission, c'est lorsqu'on vous demande de faire des choses qui sont contraires à la volonté expresse, à la volonté expressément décrite de Dieu dans la parole. Vous n'avez pas à vous faire tabasser dans un mariage. Vous pouvez prendre vos distances avec quelqu'un qui vous ferait violence physique, par exemple. La soumission, c'est une obligation. C'est une opportunité. Une opportunité en quoi ? Une opportunité pour gagner un mari non sauvé à Christ. En montrant des qualités qui sont les qualités que Paul appelle le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Et Pierre nous disait qu'on était appelé à révéler, à annoncer les vertus de Dieu. Et c'est ainsi que quelqu'un le fait, comme on vient de le lire dans Éphésiens 5. La soumission, encore une fois, c'est une façon d'attirer les personnes à Christ. Et je partageais que dans notre famille, une sœur de Nancy s'est mariée parce qu'elle était tombée enceinte. Elle avait commis un péché en ayant des relations sexuelles en dehors du mariage. Elle a eu un enfant et elle a voulu se marier avec le père de cette enfance, qui est très bien, mais lui était complètement non-chrétien, il était complètement païen, il se moquait de la foi chrétienne. Pendant longtemps, il a laissé sa femme aller à l'église pendant que lui restait à la maison à regarder la télé, à prendre des longs petits déjeuners. Mais finalement, parce qu'elle s'est soumise et qu'elle a été cette femme dont il est question dans les six premiers versets, il est venu à Christ. Et il est venu à Christ violemment. Il est allé en école biblique, se former, il est allé comme missionnaire, il a planté plusieurs églises au Mexique. Et il est devenu missionnaire et pasteur. Et aujourd'hui encore, il vit pour le Seigneur. Il a été gagné par la conduite verte, pure et respectueuse, par l'esprit doux et tranquille de sa femme. Et c'est aussi un des aspects qui est important. Le troisième aspect, l'obligation, l'opportunité, c'est un ornement. C'est quelque chose qui vous rend belle, mesdames. On a dit que l'ornement, c'était le mot qui s'opposait au mot chaos. C'est le mot cosmos, quelque chose qui est bien ordonné, qui est beau à voir. Et lorsqu'on est soumise et qu'on privilégie la beauté intérieure, elle est très belle. Et cette beauté intérieure, elle rejaillit sur votre beauté extérieure. Par contre, ça ne marche pas dans le sens inverse. Vous pouvez acheter tous les parfums les plus chers, les rouges à lèvres les plus beaux, les plus flashy, les plus fluorescents. C'est pas ça qui va changer votre cœur à l'intérieur. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ça pour dire, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme. Alors là, la traduction de la Bible à la Colombe, c'est pas celle que je vais adopter, parce que quand on regarde le texte de près, vous de même, qui fait référence au vous de même du premier verset, verset 3, 1, vous de même femme, et ce vous de même, il faisait référence à Jésus-Christ lui-même, qui s'était soumis, qui n'avait pas de péché, n'avait pas commis de péché dans la bouche duquel il n'était pas trouvé de fraude, lui s'était humilié jusqu'à la croix. Et c'est comme ça qu'il a remporté la victoire sur les ténèbres. C'est le plan de Dieu, l'humilité, la soumission à des autorités instituées par Dieu. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme. Tout d'abord, il faut vivre avec sa femme. Tout bête, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot veut dire loger ensemble, partager même un même lit. Il y a toujours cet aspect de relation sexuelle dans le mariage qui est voulu, souhaité, qui est une belle chose. Des fois, les gens me disent, mais où est-ce que c'est marqué qu'on ne doit pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage? Désolé, je vais vous donner un verset. 1 Corinthiens 7. On va lire. Il commence verset 1, parce qu'on lui avait posé des questions. Passons à ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Si vous pouvez être célibataire, c'est bien aussi, ça vous donne beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de temps. Vous n'avez pas à vous occuper, à prendre soin d'une épouse, vous n'avez pas à prendre soin de vos enfants. Toutefois, verset 2, à cause des occasions d'inconduite que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc c'est mieux si vous avez tendance à vouloir des relations sexuelles, à avoir votre femme, être marié à une femme pour un homme et être marié à un homme pour une femme. Remarquez qu'il n'y a pas de mariage pour tous, entre guillemets. Hein. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même la femme à son mari. C'est au niveau des relations conjugales. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est que momentanément, d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. La Bible est directe. Hein? La Bible n'a pas peur de parler de sexe. Dans le cadre du mariage, elle l'encourage. Elle dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, parce qu'à cette époque, il était célibataire. On pense qu'il était peut-être veuf parce qu'il était membre du Sanhédrin et que c'était des hommes mariés pour être membres des pharisiens. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Et voici le verset, tant redouté. Pour ceux qui se disent « on peut très bien avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, ça fait partie d'une bonne santé, d'une bonne hygiène de vie, comme on mange, comme on boit, comme on fait du sport. » À ceux qui ne sont pas mariés, il vous dit donc, « mais s'ils manquent de continence, ils ne peuvent pas se retenir s'ils ont besoin de ça, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Il ne dit pas « il vaut mieux prendre une petite copine, ça n'engage à rien ». Non, c'est, encore une fois, on est direct aujourd'hui, « il vaut mieux se marier que de brûler ». Vivez avec votre femme, ça ne veut pas dire simplement partager la même maison, ça ne veut pas dire simplement partager le même lit, ces choses sont nécessaires, mais c'est aussi être là pour votre épouse. Souvent, lorsque un jeune homme fait la cour à une jeune femme, il va passer beaucoup de temps avec elle, il va chercher à la connaître, à trouver des cadeaux qui lui correspondent. Et puis une fois qu'il est marié, il se relâche. Il la prend comme allant de soi. Il ne va plus faire d'efforts. Et je vous précise tout de suite, de peur que vous pensiez que j'ai tout compris, je suis loin d'être parfait dans ce domaine. Ça tombe bien, Nancy s'est éloignée un peu, je ne sais pas si elle va revenir. Je me prêche à moi-même, que ce soit clair. Vous de même, vivez d'abord avec votre femme, c'est très important. C'est Luther qui disait, la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et notre épouse, notre épouse dans notre cas, c'est notre prochain le plus proche. Donc on devrait avoir pour elle le plus grand amour. Dans Colossiens 3,19, Paul nous dit « Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Ne soyez pas durs, n'ayez pas des propos méchants, durs envers elle, des propos coléreux. Nous devons vivre avec notre femme. Chacun avec sa femme, pas avec la femme du voisin ou la femme ou la collègue de travail. Investissez-vous. Et c'est là que la traduction de la Bible à la Colombe est fausse. Lorsqu'il dit « votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles ». Il est dit en fait « vivez dans la connaissance, soyez dans la connaissance, sous-entendu, connaissez votre femme. » Mais je la connais, on est mariés depuis 5 ans, on est mariés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, waouh, ça doit être barbant. Ce que me disait un jeune à qui je parlais du mariage à la fac il y a 2 semaines, Toujours la même.
Oh là là ! Qu'est-ce que ça doit être ennuyeux !
Il y a des études scientifiques qui montrent qu'il y a des hormones de plaisir qui n'apparaissent que lorsque certaines hormones du désir sexuel se sont calmées, les hormones de l'attachement, du bien-être qu'on a à vivre avec quelqu'un pour toujours. Là encore, ce n'est pas du tout ce que vous disent vos magazines féminins, mesdames. Mais est-ce que vous croyez que c'est la vérité, ou est-ce que c'est Marie-France ou elle ou je ne sais pas qui vous dicte? Peut-être Cosmopolitain, ça doit être plus sûr. Hein. Ils ont pris leur avis auprès d'un panel international. Non. Connaissez votre femme. Alors le Seigneur m'a repris, et il m'a demandé, « Pierre, est-ce que tu connais Nancy ?» Bien sûr, je la connais. Il m'a demandé, « C'est quoi la taille de ses chaussures ?» D'habitude, si j'ai cette question, je vais voir dans l'armoire et je regarde la taille qu'il y a sur la chaussure qu'elle porte déjà. La taille de sa chemise, de ses chemisiers. La taille de ses pantalons. Comment ? Si on veut commander en ligne, il vaut mieux savoir ces choses. Donc je lui ai passé un petit papier et elle a répondu, maintenant je sais ces choses. Est-ce que vous connaissez son plat préféré ? Nancy, c'est steak and lobster. C'est un plat, c'est une combinaison du steak avec de la langouste. Je crois que je ne lui ai jamais offert ça. Sa couleur préférée. Moi, j'aime bien le rose, elle, sa couleur préférée, c'est le vert. Posez-vous ces questions. Est-ce que je sais quel est son genre de film préféré, son programme télé préféré ? Quelle est son activité favorite en week-end ? Pour Nancy, c'est la randonnée. La randonnée, on en fait une ou deux par an quand on va à la montagne. Et en plus, parce qu'elle travaille là-bas, elle ne fait pas la randonnée. Sa fleur préférée, son fruit préféré, le jouet qu'elle aimait le plus dans son enfance, son acteur de cinéma préféré. Ça va, le sien est mort, c'était Yul Brynner. Son actrice de cinéma favorite, Catherine Hepburn. Sa musique préférée, sa voiture préférée, l'endroit du monde qu'elle préfère. Est-ce que vous savez répondre à ces questions ? Et il y en a plein d'autres qu'on pourrait ajouter à la liste. Est-ce que vous connaissez vraiment votre femme ? Nous sommes invités à vivre avec elle, mais aussi en les connaissant. Alors ça, c'était des questions précises sur votre femme. Il y a aussi des choses qu'on connaît. On sait que les femmes ont besoin d'affection. Une femme a besoin de savoir qu'elle est aimée. Nous, on a tendance à dire, mais je te l'ai dit quand on s'est marié, si les choses changent, je te le ferai savoir. C'est toutes les façons dont on peut montrer de l'amour à sa femme. En lui ouvrant la porte de la voiture. C'est quand la dernière fois que vous avez ouvert la porte de la voiture à votre femme ? Elle a les paquets, les gosses et tout, et vous êtes là en train de klaxonner. Tu te dépêches, on va être en retard à l'église. Je vise personne, j'ai pas de caméra cachée. Hein. Les femmes ont besoin de communication. On dit qu'une femme prononce environ 30 000 paroles par jour, 30 000 mots. Un homme, c'est plutôt 20 000, 25 000 si c'est un grand tchatcheur. Souvent, si la femme est à la maison, elle s'occupe des enfants, on a déjà dépensé nos 20 000 mots au travail. Elle a 30 000 mots qu'elle veut nous dire. Elles ont besoin de parler. Moi, je suis toujours émerveillé ou surpris ou je comprends mal le temps que les femmes peuvent parler au téléphone, passer au téléphone. Moi, si j'appelle quelqu'un, c'est pour dire, bon, demain, 10 heures, c'est bon, pas de problème. On peut utiliser les SMS pour le faire. Mais au téléphone, il y en a même certaines qui vous disent « Attention, je traverse un tunnel, on va être coupé pendant quelques minutes, je vise personne. » Ce n'est pas un reproche, c'est des choses à savoir, des choses à comprendre. Vivez avec votre femme en les connaissant. Il faut les... reconnaître que ce sont des personnes ou des êtres plus faibles. Oh, ça c'est macho. Il y a des femmes qui sont peut-être pas plus fortes physiquement. Il y a des... on pourrait amener ici des femmes très costauds qui mettraient le plus fort des hommes parmi nous qui leur feraient honte. C'est certain que ce n'est pas au niveau de la résistance à la douleur. Quelqu'un disait que si c'était les hommes qui devaient mettre au monde les enfants, ça fait longtemps que la race humaine se serait éteinte. Elles ont une capacité à souffrir, à nous souffrir, et elles ont une grande capacité émotionnelle. Elles ont... souvent, c'est vrai, une moindre force physique parce qu'elles ont moins de testostérone qui fait qu'on a des os plus durs, pas pour tous. Non, s'il y a des os plus durs que les miens, ça a été testé par ostéométrie, densité de l'os. Émotionnellement aussi, elles sont des fois très fortes, plus fortes que les hommes. Alors, beaucoup des commentateurs pensent qu'il s'agit de la force physique, et c'est souvent le cas. J'aimais bien la proposition d'un autre commentateur qui disait qu'en fait, si elles se soumettent aux préceptes divins, elles vont être dans une hiérarchie inférieure ou soumise, et donc par là elles seront plus faibles. Mais une chose est importante à noter, c'est pas que ce sont des êtres faibles, c'est que ce sont des êtres plus faibles que nous. Si on était tenté de penser qu'on est des machos costauds, qu'on résiste à tout, c'est pas le cas, on est faible aussi. Mais on doit les vivre avec, les connaître, et surtout, le commandement principal, c'est de les honorer. Les honorer comme cohéritières de la grâce de Dieu, honorer votre femme. Comment ça se traduit, ça? Dire du bien d'elle, la protéger lorsqu'elle est critiquée, lui montrer de l'importance, communiquer avec elle, on revient à la communication, montrer de l'affection, offrir des fleurs, offrir des cadeaux. Toujours gênant lorsque j'offre des fleurs à Nancy, elle me dit qu'est-ce que tu dois te faire pardonner ? Faites-le sans avoir rien à vous faire pardonner de temps en temps. Lorsqu'il est dit qu'elle est plus faible, j'aime bien l'idée de penser que la femme est plus délicate que l'homme. L'homme est un peu brut de coffrage. Il peut être des fois assez simpliste dans ses émotions, dans sa façon de voir la vie, le monde. Mais les femmes sont beaucoup plus délicates. Et on a un ami qui est pasteur et ancien potier qui parle de ça et qui dit que des fois il peut faire des assiettes bien épaisses avec de la poterie très dure. Des fois, il fait des très belles choses en des vases très légers, très fins, très fragiles. Et il dit, les assiettes dures, costauds, c'est un peu nous les hommes. On prend des coups, on est un peu ébréché, mais ça ne nous empêche pas de fonctionner. Par contre, le vase, s'il tombe, il va se briser. Le vase, on va le mettre dans une position d'honneur, on va le mettre sur l'étagère, dans une place, on va s'assurer qu'il est bien attaché. Cette façon de voir le sexe, entre guillemets, le sexe faible, honorer vos femmes comme des êtres délicats. Ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas capables de porter un sac de ciment sur le dos. Et encore une fois, je voudrais rappeler que c'est la civilisation chrétienne, la foi chrétienne qui a transformé le monde. On voit encore dans certaines cultures, la femme qui marche à côté de son mari assis sur un âne. Et si on demande au mari pourquoi sa femme marche à côté de lui, il dit « c'est parce qu'elle n'a pas d'âne ». C'est caricatural, mais c'est souvent encore, et on le sait, certaines cultures, même religions, la femme est toujours considérée comme un second rôle. Parce que ici, on peut les honorer et considérer qu'elles sont co-héritières de la grâce de la vie. La question c'est, qu'est-ce que c'est que la grâce de la vie ? C'est la grâce que Dieu nous manifeste, mais je crois que là, c'est quelque chose qu'on va hériter tous ensemble, c'est la grâce du salut. On va tous être sauvés. C'est Paul qui disait qu'il n'y a plus en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, ni juif, ni païen. La foi chrétienne, c'est on est tous égaux au pied de la croix. Et on doit réaliser que Christ est mort pour elle, autant que pour nous les hommes. Et la valeur d'une chose, c'est un principe pour ceux qui ont fait un peu d'économie, la valeur d'une chose, ce n'est pas quelque chose d'intrinsèque. C'est pour ça qu'on doit voir le prix qui a été affiché sur un code barre quand on veut acheter quelque chose. Ce n'est pas quelque chose, tiens, ce téléphone, il vaut 153 francs, 153 euros. Le prix d'une chose, c'est la valeur qu'on est prêt à dépenser pour l'acquérir. Et Dieu a dépensé la chose la plus précieuse au monde, dans l'univers, dans l'histoire de l'univers, son propre Fils, avec qui il partage une communion parfaite de depuis toute éternité, il a dû dépenser ce fils pour acheter Pierre, pour acheter Nancy, pour nous racheter. Nous devons respecter nos femmes parce qu'elles sont, les honorer, les mettre en valeur, leur montrer du respect, leur montrer, on a vu, de l'amour, mais aussi parce qu'on a un héritage commun. Et quelqu'un disait, ce passage en fait, c'est si vous faites, si vous prenez soin de votre femme, Dieu va prendre soin de vous. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, si vous ne faites pas ça, ça va faire obstacle à vos prières. Vous allez prier et vos prières vont vous retomber dessus, elles vont s'arrêter au plafond. Elles vont ricocher sur le plafond. Dieu prend plaisir à la façon dont vous traitez votre femme. Je réalise que parmi nous, il y a beaucoup de célibataires. Ce sont des choses importantes à savoir, même si vous êtes célibataire. Un jour, peut-être, Dieu vous fera la grâce ou le défi d'un conjoint, d'une conjointe. Dieu prend plaisir à voir la façon dont vous aimez votre femme, dont vous vivez avec elle, en la connaissant, en reconnaissant que ce sont des personnes, des êtres plus délicats que vous, et en les honorant. Et il nous dit très clairement, si vous ne faites pas ces choses, ça va faire obstacle à vos prières. Peut-être que vous priez et puis vous demandez pourquoi Dieu n'exauce pas vos prières. Je vous invite, messieurs, à regarder la façon dont vous vivez avec votre épouse. Encore une fois, je suis repris par cet enseignement et je demande pardon à Dieu de la façon dont des fois je prends Nancy pour quelque chose qui m'est dû ou quelque chose que Dieu m'a donné une fois pour toutes. On sait que la vie est courte et on sait qu'on doit vivre selon la volonté de Dieu. Et si nous prenons soin de nos épouses, Dieu nous dit, je vais prendre soin de vous en répondant à vos prières. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Elle nous montre comment vivre. Merci parce que tu veux avant tout notre bien. Tu veux que nos vies porte du fruit. Et Seigneur, nous savons que la façon dont nous traitons nos épouses, Seigneur, c'est aussi la façon dont nos propres enfants ont tendance à traiter à leur tour leurs épouses. Et Seigneur, souvent, on peut regretter la façon dont on a vécu quand on voit des mauvaises choses se reproduire. Seigneur, merci parce que Tu peux aller au-delà de nos mauvais exemples et nous bénir par la façon dont nos enfants traitent leurs épouses ou leurs époux. Seigneur, nous te remettons ces mariages représentés ici, Seigneur. Apprends-nous à connaître, à vivre avec nos femmes, à ne pas être des pères ou des maris absents, préoccupés par le travail ou les soucis quotidiens, Seigneur, mais à leur montrer non seulement de la considération, mais à les honorer, parce qu'elles aussi sont héritières du salut. Il n'y a pas de différence spirituelle entre elles et nous, Seigneur, et nous t'en remercions souvent, ce sont elles qui montrent le plus d'attachement, de fidélité dans leur service à toi, Seigneur. Sois béni, je te remercie pour mon épouse, Seigneur Nancy. Je crois que tous nous pouvons remercier Dieu pour nos épouses. Et Seigneur, nous formons Les prières pour les célibataires qui veulent trouver le conjoint, Seigneur, la conjointe que tu exauces. Ces prières d'une façon qui te rende gloire, Seigneur. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.